Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Il faut défendre la société, c'était le titre d'une série de cours de Michel Foucault au Collège de France. Il analysait l'origine, l'extension des techniques de surveillance, des institutions punitives qui s'exercent sur les populations. Mais faut-il défendre la société quoi qu'il en coûte, au prix notamment d'atteinte aux libertés publiques, au nom de la sécurité sous toutes ses formes, que ce soit l'état d'urgence sanitaire ou la lutte contre le terrorisme. Des enjeux majeurs, des enjeux d'actualité, des enjeux qui interrogent notre République et notre état de droit, et que connaît parfaitement, j'allais dire charnellement, pour reprendre l'un de ces mots, notre invité. Comment donner confiance en la justice? C'est l'un des défis qu'il doit affronter en direct avec nous jusqu'à 13h. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce dimanche pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous, bonjour.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, monsieur le ministre, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Partons d'abord d'une question sur l'état du pays. Si la politique était aussi une histoire de météo, quel temps fait-il en France, selon vous, Éric Dupond-Moretti ?
Il fait gris, mais nous avons des perspectives d'amélioration.
Gris.
Et nous allons voir le ciel bleu.
Oui.
Ben, dans le gris, il y a évidemment cette pandémie mondiale. Et nous verrons finalement comment nous nous sortons de cela. Je l'espère rapidement, peut-être plus rapidement que les prévisions les plus pessimistes. Tout cela tient à la vaccination. Ça nous fait beaucoup de mal. Personnellement, sociétalement, ça nous fait du mal. Et je pense que nous allons sortir de ça par le haut.
On va en parler, mais le président de la République, au cours de ses dernières déclarations, a plusieurs fois employé un mot, le mot « ensemble ». Est-ce que, selon vous, nous sommes encore ensemble ?
J'aimerais tant que nous soyons ensemble, notamment sur des valeurs républicaines. Il n'y a pas d'issue sans cette vision collective de la République. Et c'est la raison pour laquelle on essaie d'éradiquer tous les séparatismes.
Mais il n'y a pas que les séparatismes, il y a des choses,
Karine Bécard,
j'ai envie de dire, beaucoup plus élémentaires peut-être. Prenons l'exemple tout simple de ce qui s'est passé hier. Défilé du 1er mai, à la fin du cortège, la CGT se fait molester. Ça ne s'était jamais produit de mémoire de cégétiste. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? C'est quoi ce niveau de tension dans lequel on vit aujourd'hui?
Éric Dupond-Moretti.
Bah, d'abord, moi, je voudrais avoir un mot pour les syndicalistes. Vous avez raison. C'est la première fois qu'on voit ça. Manifester, c'est une grande liberté. Elle n'est pas entravée par l'État, qui fait tout pour la maintenir. Avec des forces de l'ordre qui sont présentes, qui le payent parfois dans leur chair encore, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure. Oui, on est en pleine perte des repères. Ça tient à plusieurs raisons. Je pense que, d'abord, cette pandémie nous a fait du mal. Elle nous a recroquevillés sur nous-mêmes. Nous avons vécu une période mortifère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les réseaux sociaux qui expriment beaucoup de haine. Et c'est une des luttes qui me tient particulièrement à cœur. Je voudrais d'ailleurs vous dire à ce propos, parce que c'est passé complètement sous les radars, mais je le dis.
Oui.
Le Parlement européen a voté hier des textes européens qui auront vocation à s'appliquer chez nous, au terme desquels, en une heure, des contenus terroristes seront balayés des réseaux sociaux. Et c'est grâce à la France que nous avons obtenu cette avancée. Oui, c'est toute cette haine qui se répand et qui nous fait tellement de mal.
Nathalie Saint-Cricq, Françoise Fressoz. Françoise, puis Nathalie.
Pardon. Comment expliquez-vous qu'au fond, nous soyons tous atteints par cette pandémie et que le niveau de défiance et peut-être même le niveau de tension en France apparaissent bien plus élevé que dans d'autres pays, je pense par exemple à la Grande-Bretagne, où il y a une sorte de fierté d'en sortir de la pandémie. Comment expliquez-vous, au fond, cette tension très très forte qu'il y a en France ?
Éric Dupond-Moretti.
Je pense qu'effectivement, il y a une défiance à l'égard de tout ce qui est vertical, tout ce qui vient d'en haut. Il y a une défiance à l'égard de l'État de façon générale. Il y a encore une fois cette liberté dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à la fois merveilleux instrument de démocratie participative et c'est un défouloir collectif où tout est possible, où l'on peut tout dire sans être contredit. C'est le moment et l'époque des fake news. C'est aussi d'ailleurs une réflexion que doivent avoir les journalistes.
Et que nous avons.
Dans leur ensemble. Attachés aux valeurs républicaines. Il y a une perte des repères, c'est une évidence. Vous en donnez les causes, je n'en sais rien, mais je fais comme vous le constat de cela.
Nathalie Saint-Cricq.
Globalement, est-ce que vous, en tant qu'avocat ou ex-avocat, je ne sais pas comment on doit dire, et défenseur des libertés, est-ce que vous trouvez globalement que les Français ont été super disciplinés pendant cette période de pandémie, comme il le fallait, ou finalement qu'ils ont accepté trop facilement toutes les restrictions, le couvre-feu, les interdictions? Comment vous jugez cet état d'acceptation qui a été finalement assez important, quoi qu'on en dise?
J'ai vu, comme tout le monde, des images de gens qui étaient parfaitement respectueux des règles, les difficultés des premiers confinements, les difficultés de la période de freinage, le port du masque. Enfin, on s'embrasse plus, on se...
fait plus rien.
Non, mais vous avez aussi vu les images de Tuffer, les images de ceux qui faisaient la fête encore hier soir et qui continuent d'ailleurs à faire la fête en ce moment même près de Lyon.
Et il y a aussi ça. Et alors, vous avez tous ceux qui utilisent le mot liberticide. Je ne l'ai jamais autant entendu que depuis que je suis ministre de la Justice.
Mais c'est une réalité ou pas?
Non mais attendez, c'est une confusion des genres et des choses. Vous avez des gens qui viennent dire, voyez, l'État nous impose, l'État est liberticide. Mais la liberté c'est quoi en l'occurrence? La liberté de contaminer les autres? La liberté de transmettre le virus? Donc il était indispensable qu'on prenne un certain nombre de mesures.
Mais vous ne répondez pas à Nathalie.
L'interdiction de circuler, la restriction d'un certain nombre de libertés, vous trouvez
que c'est... Mais on est en guerre contre un virus, c'est une pandémie mondiale. Que fallait-il faire? Et nous verrons. Quand nous serons tous sortis de tout cela, on pourra comparer ce que nous avons fait ici, ce que l'on a fait ailleurs, et quels sont les résultats qui ont été obtenus
dans
les différents pays.
Mais dans l'ensemble, les Français ont été disciplinés ou sont disciplinés?
Je le pense, oui.
Et qu'est-ce que vous dites aux Tuffers?
J'en dis qu'il ferait mieux de rester chez eux, qu'ils patientent encore un peu.
Françoise Fressoz.
On a quand même assisté depuis un an, au fond, à une succession de ce qu'on a appelé l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire des mesures dérogatoires sous contrôle a posteriori du Parlement qui permet au Premier ministre, au fond, de limiter votre liberté de circulation, la liberté de manifester. On va en sortir en juin, mais pour aussitôt entrer dans un régime transitoire. Est-ce qu'il y a une réflexion à mener au niveau des institutions pour se dire, au fond, est-ce que cette solution d'accumulation de régimes dérogatoires, c'est bon, ou est-ce qu'il faut prévoir quelque chose de plus pérenne? Vous, en tant qu'ancien avocat, comment vous réagissez au débat, un peu l'inquiétude des parlementaires de dire on est de plus en plus marginalisés? Comment vous analysez ça?
Je viens de vous répondre. On est face à une pandémie mondiale. Il fallait prendre un certain nombre de mesures. Nous les avons prises. Je pense qu'on va en sortir progressivement. Et quand nous aurons recouvré ce petit coin de ciel bleu que nous appelons de nos voeux, nous réfléchirons tranquillement. Je pense qu'on réfléchit pas tranquillement sur la situation que nous vivons parce qu'elle est mortifère.
Mais vous pensez qu'il y a un sujet de débat ou bien qu'au fond on a plutôt bien géré et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir?
Mais vous savez, il y a des sujets de débat surtout. Je vous disais liberticide. J'ai entendu aussi un certain nombre de choses qui sont dites sur les mesures que l'on prend pour lutter contre le terrorisme.
On va en parler évidemment tout de suite.
Là aussi, vous voyez, des cris d'orfraie sont immédiatement poussés dans des postures qui...
Vous les poussiez, monsieur le ministre, il y a encore peu de temps, lorsque vous voyez confirmer dans notre droit des mesures qui concernent des états d'exception, des mesures d'exception qui glissent dans la loi. Ça existe.
Vous pouvez me rappeler les propos que j'ai tenus sur ces questions?
Oui, vous disiez que on était toujours confronté à la problématique de mesures exceptionnelles qui s'inscrivent dans le droit.
Je crois pas avoir dit ça.
Dans les années 2015-2016.
Non, ne me mettez pas ça entre 2000 et 2016. Je crois pas avoir tenu ce type de propos.
Et 2016.
Ce que j'ai dit en revanche, c'est que il ne fallait pas que l'on s'auto-censure. Et j'ai notamment évoqué un sondage qui m'avait beaucoup marqué où les jeunes disaient: au fond, entre le Bataclan et Charlie Hebdo, ils l'ont peut-être pas volé. Et donc, on acceptait de perdre cette liberté purement française, qui est la liberté du blasphème. Et je disais, faisons très attention à cela, parce que si nous concédons sur ces libertés, alors oui. Mais pour le reste, pardon, moi j'estime que ce que nous faisons, par exemple, on va y venir, m'avez-vous dit, et ça me tient à cœur,
oui,
sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre le terrorisme, qui n'est pas une fatalité, Eh bien, moi je dis qu'on entend beaucoup de gens qui sont dans la posture, mais qui ne proposent rien de précis. Nous y viendrons, j'espère.
On va y venir immédiatement, parce que c'est une question notamment qui concerne les terroristes, ceux qui ont été condamnés, ceux qui ont purgé leur peine, et il y a des mesures qui posent de vraies questions. Quand on est sorti de prison, est-ce qu'on doit pouvoir continuer à vous surveiller? Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, à suivre l'esprit de la loi antiterroriste, comprendre que, sans le dire de manière excessive, que sortie de prison, on restera marqué au fer rouge pendant 5 ans, qu'il aurait mieux valu prendre la clé, vous enfermer dans une cellule et la jeter à la mer?
Non, mais pas du tout. Alors là, on est dans la caricature, mais je pense que...
Non, mais c'est volontairement
pour
qu'on comprenne.
Elle est un peu provocatrice, votre question. Je vais y répondre. D'abord, vous savez que nous avons fait un effort, mais considérable, pour évaluer la dangerosité des terroristes en prison. Et ça, ce sont des créations de l'actuel pouvoir, et ce sont des choses qui ont été renforcées. Je veux en citer deux, très très rapidement. Les quartiers d'évaluation de la radicalité, et ensuite les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Nous avons augmenté, au sein de l'administration pénitentiaire, ces structures. Maintenant, quand un homme sort, ben moi, pardon, je veux m'assurer qu'il n'est plus un terroriste. Et je veux qu'il soit surveillé. Et qu'il soit surveillé dans le cadre de la loi. Et je n'ai pas à rougir de cela. Et je pense que c'est ce que les Français attendent du garde des Sceaux. Moi, je veux être le rempart contre le terrorisme à la place qui est la mienne, mais dans le cadre de la règle de droit, parce que je ne veux pas ressembler à un terroriste qui, lui, se moque éperdument de la règle de droit.
Oui. Mais alors, du coup, pourquoi 5 ans, par exemple?
Becker,
pourquoi, au bout de 5 ans, on réussit à s'assurer que ce terroriste a réussi à se réinsérer dans la société?
Parce que le Conseil constitutionnel a imposé de limiter ces mesures de surveillance dans le temps. Et qu'après 5 ans, ils seront encore surveillés par les services.
Donc maintenant, vous n'avez plus peur. La dernière fois, la proposition de loi Yael Braun-Pivet, qui était justement qui était sur ce sujet, a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Là, vous êtes sûr que vous êtes blindé et que c'est pas le Conseil constitutionnel qui va encore une fois, vous retoquer votre proposition en considérant que c'est liberticide.
Éric Dupond-Moretti.
Madame, nous avons pris la mesure de cette décision du Conseil constitutionnel. Nous voulions absolument que l'on surveille les condamnés pour terrorisme, et nous avons pris, bien sûr, toutes les précautions que nous imposait le Conseil constitutionnel. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude quant à la constitutionnalité du texte qui sera, je l'espère, voté très vite.
Françoise Fressoz.
En fait, sans vous obliger à lever des secrets d'État, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que vous jouez quand le gouvernement doit prendre une nouvelle mesure de lutte antiterroriste? Est-ce que vous êtes en alerte sur l'état des libertés publiques? Comment vous faites? Parce qu'au fond, l'affaire de Rambouillet montre que les terroristes sont de plus en plus difficiles à appréhender, que ce sont souvent des hommes solitaires. Donc, au fond, ça pousse à chaque fois augmenter un peu plus les moyens de contrôle, de surveillance. Donc, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes en état d'alerte sur les libertés publiques ou vous dites, j'accompagne, parce que, au fond, ce qui prime, et parce que l'opinion le demande, j'accompagne les mesures de lutte contre le terrorisme?
Alors, l'opinion le demande, bien sûr, et à la place qui est la mienne, je dois entendre l'opinion, mais quand c'est encadré dans un texte de loi, et c'est ça qui compte, ça fixe un certain nombre de limites. Pourquoi 5 ans? Eh bien, voilà une limite. C'est le Conseil constitutionnel qui nous l'a suggéré, imposé. Nous l'avons prise en considération. Mais on peut pas faire d'angélisme en la matière. On reviendra, j'espère, sur les dispositions que nous avons présentées il y a de cela quelques jours en Conseil des ministres, et notamment la surveillance des algorithmes.
Oui.
J'entends un certain nombre de choses qui me semblent totalement hérétiques. Totalement hérétiques. Bien sûr qu'il
Pourquoi
faut surveiller. Bah, écoutez, j'ai entendu.
Quel est le dogme?
Alors, moi, j'ai
par
pas
rapport
de
auquel
on a senti que
vous employez le mot d'hérétique. Donc,
oui, mais moi, j'ai pas de dogme, mais j'entends ce qui se dit.
Caractériser l'hérésie.
J'ai entendu Maître Spinozzi.
Oui. Avec qui vous avez travaillé, qui est avocat au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel.
Voilà un homme de droit qui se méfie du droit. C'est quand même curieux. Comment on arrête le terrorisme? Avec des fleurs? Avec des militaires débridés qui interviendraient sans ordre? C'est ça qu'on nous suggère, et on va s'arrêter 2 secondes là-dessus.
Oui.
On nous dit, mais ces algorithmes, c'est la possibilité d'aller contrôler ce que font les Français sur Internet. Non. Nous allons voir ce que font les Français, mais pas que les Français. On reviendra d'ailleurs sur cette question de l'immigration et le lien que l'on fait avec le terrorisme. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est d'aller vérifier ceux qui, sur Internet, vont sur les sites djihadistes. Cela, je le dis, il nous inquiète. Et il me paraît normal que l'État jette un regard sur ce qui se passe là.
Mais les outils juridiques ne suffisent pas, puisque le Conseil constitutionnel avait déjà fait retoquer une loi sur la consultation des sites djihadistes. Et là, ce qu'on voit, c'est...
Ça n'a rien à voir, pardonnez-moi, monsieur Ali Badou. C'était une loi qui prévoyait la criminalisation. C'était une infraction.
Oui.
Lorsqu'il s'agissait d'une consultation, c'est pas de ça du tout dont il est question ici. Si vous allez sur un site djihadiste pour faire votre métier de journaliste, bah difficilement comment on pourrait vous ennuyer, c'est bien la moindre des choses. Mais si vous y allez parce que ça vous intéresse, ça nous alerte, et si vous y allez parce que vous êtes un adhérent à ces thèses fanatiques mortifères, oui, là, ça nous intéresse, mais véritablement, on ne peut pas à la fois se plaindre. On ne peut pas à la fois se plaindre que certains terroristes passent au travers des mailles. Et d'ailleurs, quand ils passent au travers des mailles, c'est qu'ils ne sont pas suivis, et se plaindre qu'on veuille contrôler ces situations. Il faut savoir ce que l'on veut.
Nathalie Saint-Cricq.
Comment est-ce que vous expliquez la défiance des Français vis-à-vis de la justice? D'après une étude du CEVIPOF, à peu près 50% des Français n'ont pas confiance. Et comment vous expliquez également cette espèce d'ambiance de laxisme qu'une partie de la droite, voire de l'extrême droite, utilise pour qualifier les magistrats? En clair, là, vous tenez un discours assez dur, assez autoritaire, comment dire. Comment vous expliquez qu'il y ait cette défiance des Français?
Éric Dupond-Moretti.
On pense en gros que la justice est de gauche.
On en a pour une heure.
On va essayer
de faire plus court, mais
oui, soyons concis.
Vous évoquez d'abord, vous me posez deux questions. La première, pourquoi les Français n'ont pas confiance dans la justice? D'abord parce qu'elle est trop lente. Ensuite parce que pendant des années, et je veux y remédier. Ensuite pendant des années parce qu'on n'a pas traité la petite délinquance qui, en réalité, pourrit la vie de nos concitoyens.
Nous empêche d'avoir une vie paisible.
C'est les 350 infractions pour lesquelles j'ai demandé un traitement particulier, rapide, efficace, notamment en doublant le nombre de délégués du procureur et en envoyant dans les juridictions, c'est le plus gros plan d'embauche depuis 25 ans, 1000 personnels supplémentaires qui ont été dispatchés, si vous me permettez ce verbe.
Nous vous le permettons.
Merci beaucoup. Dans toutes les juridictions de notre pays. Augmentation en termes de personnel, 5%. Et dans certaines juridictions plus fragilisées, 10%. Ensuite, naturellement, il y a l'exploitation qui est faite de la décision de justice par certains, par certaines.
Alors vous voulez dire par exemple Marine Le Pen qui dit que l'avocat général dans l'histoire de Viry-Châtillon a dit que les jeunes étaient une richesse pour notre société.
Mais quelle honte, quelle
fake news. Ou alors que vous étiez le ministre, vous aviez déclaré être le ministre des détenus et de l'administration pénitentiaire, c'est ça que vous voulez dire?
Vous faites bien là encore de me poser deux questions en une.
Pardon, excusez-moi si je...
D'abord, c'est absolument scandaleux, elle a tronqué mon propos. J'ai dit que j'étais le ministre des magistrats, des victimes, des justiciables, des avocats, des huissiers, des notaires, des commissaires-priseurs, et que j'étais aussi le ministre des détenus, et n'en déplaise à Mme Le Pen, c'est une réalité. Elle a fait comme elle fait d'habitude, elle a tronqué le propos, elle a ressorti ministre des détenus, ça signifie laxisme, angélisme, Taubira Empire, etc. Enfin, toutes ces vieilles histoires. Bon, voilà. Et s'agissant des propos de l'avocat général, alors, vous savez, il y a des avocats généraux, et même des avocats d'ailleurs, qui, lorsqu'ils plaident, écrivent leur réquisitoire, leur plaidoirie. Et on a le réquisitoire de ce magistrat qui appartient au parquet général de Paris. Que dit-il? Il dit aux accusés, sans concession, et ça n'est pas au début de son propos, c'est à la fin. Il leur dit, messieurs, je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas que la rue de la Serpente, il n'y a pas que votre quartier. Vous rencontrerez d'autres gens, des citoyens, qui font la richesse de ce pays, auquel, ne vous en déplaise, vous appartenez. Et ça devient, dans la bouche de Mme Le Pen, il leur a pratiquement dit « Ah, mes petits chéris, vous êtes la richesse de la République ». C'est un scandale. C'est une habituée du mensonge. Voilà. C'est une réalité que je dénonce de la façon la plus ferme.
On vous a déjà Karine entendu Bécart, effectivement sur ces questions-là. Je voudrais qu'on reste quand même sur ce sujet, sur ce thème de redonner confiance aux Français dans la justice.
Oui, je n'ai pas tout à fait terminé, pardonnez-moi, sur le volet laxisme de la justice.
Poursuivez.
En réalité, nous avons, nous, et c'est une réalité, d'ailleurs publiée dans Le Monde il y a peu de temps, une réalité qui est une réalité inflationniste. Il y a de plus en plus de détenus. Les peines sont de plus en plus lourdes. C'est une réalité. Ce sont les magistrats qui, dans notre pays, décident des peines. Et je veux dire ici, une fois pour toutes encore, que ce n'est pas le garde des Sceaux qui décide des peines, car dans une grande démocratie, le ministre de la Justice, il respecte l'indépendance des juges.
Mais là, vous touchez...
On va le redire.
Mais voilà, mais vous touchez un point central, l'indépendance de la justice, l'indépendance, pardonnez-moi, des juges, l'indépendance du parquet aussi. Pourquoi tout ça ne figure pas finalement dans votre loi ? C'est en abordant ces deux sujets-là en particulier, par exemple, que probablement vous auriez réussi à redonner de la confiance dans, pour les Français dans cette justice.
Éric Dupond-Moretti.
Madame, d'abord le parquet, le garde des Sceaux ne peut pas lui donner un ordre individuel. D'accord ? En revanche, il peut prendre par voie de circulaire un certain nombre de dispositions, car c'est le garde des Sceaux qui en charge la politique pénale. Si ça n'était pas le cas, ça signifierait que le procureur de Marseille peut avoir une politique pénale différente du procureur de Périgueux ou de Bordeaux ou de Lille. Bon, ensuite, qui est responsable de la politique pénale ? C'est le garde des Sceaux. Il est responsable de la politique pénale devant le Parlement, et le Parlement fait son métier, c'est bien comme ça dans une démocratie, et demande un certain nombre de comptes au garde des Sceaux. Maintenant, on va dire les choses complètement. Le parquet est indépendant. Les magistrats du siège sont indépendants. Mais il faut aller regarder avec lucidité ce qu'est cette indépendance. Elle ne peut pas être le viatique pour tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de courage, et de lucidité, le président de la République a demandé au Conseil supérieur de la magistrature un travail sur la responsabilité des juges. 2500 plaintes de justiciables devant le Conseil supérieur de la magistrature. Savez-vous combien d'entre elles ont abouti ?
Une vingtaine, enfin
zéro.
Très peu.
Zéro. Donc c'est un vrai problème et nous y travaillons. Mais comme je travaille pour rétablir la confiance des Français dans la justice, sur les professions du droit, j'ai travaillé sur la déontologie des avocats, des notaires, des huissiers de justice.
Françoise Fressoz.
Vous parliez tout à l'heure de l'instrumentalisation des décisions de justice. Vous mettiez en cause Marine Le Pen, mais il y a aussi des contestations de décisions de justice. Quand vous voyez des policiers manifester devant des tribunaux parce qu'ils ne contestent pas, ils n'admettent pas la décision la Cour d'assises de Paris qui concernait l'attaque de policiers brûlés dans leur voiture à Viry-Châtillon en 2016, ils trouvaient le jugement trop laxiste. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, au fond, sur la relation à la fois entre police et justice et sur ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire quand même la contestation presque implicite de l'ordre républicain tel qu'il est aujourd'hui.
Éric Dupond-Moretti.
Moi, vous savez, je vais participer au Beauvau de la police très prochainement. Et je suis le seul garde des Sceaux, je crois, qui a déjà été directement en contact avec les syndicats de policiers. Je leur ai dit, on est dans la même barque. Il n'y a pas la police d'un côté, la justice de l'autre. Je comprends qu'un certain nombre de décisions de justice amènent des interrogations. Mais l'ordre républicain, c'est plus important que tout le reste. Et on ne peut pas s'en désolidariser. D'ailleurs, je crois que dans le mouvement de la police, pour être tout à fait précis, vous avez vu qu'à un moment, on a dit « mais c'est pas tant cette décision que l'on conteste ». Parce qu'évidemment, on est parti sur des mensonges et sur des fake news. On est parti sur l'idée que l'avocat général avait dit « mais mes petits chéris, vous appartenez à la République, je vous aime bien ». Ça, c'est Madame Le Pen qui a instrumentalisé tout ça. Puis quand on s'est rendu compte que c'était une autre réalité, et quand on a su, par exemple, que le directeur d'enquête avait très loyalement dit que pour un certain nombre d'accusés, il n'avait pas de preuves, eh bien voilà. Il y a aussi ce qu'a dit Monsieur Bertrand. Vous avez vu, il a dit, si on prend mes mesures, il n'y aurait pas d'acquittement. La belle affaire. Tout ça est quand même
Xavier
très
Bertrand,
curieux.
Le président de la région Hauts-de-France.
Il a proposé sur le plan du droit et de la justice un certain nombre de mesures qui sont plus inconstitutionnelles les unes que les autres.
Dont
c'est
une
bonne
cible de 50 ans pour les convaincus de terrorisme.
Intervenant rétroactivement.
En plus.
Rétroactivement.
Éric Dupond-Moretti, puisque l'on parle du rapport des Français à leur justice, il y a une émotion légitime, une émotion extrêmement forte et un vrai sentiment d'injustice qui s'est exprimé à propos de l'irresponsabilité confirmée par la Cour de cassation de celui qui a assassiné Sarah Halimi, Nathalie.
Alors, je voudrais justement comprendre ce qu'il pourrait y avoir dans votre texte de loi. Il y a un rapport parlementaire, Rimbaud-Rouillon, socialiste, républicain, donc à peu près équilibré, qui avait été commandé par Nicole Belloubet et qui préconise ce rapport de ne rien toucher concernant l'irresponsabilité pénale. Alors, en gros, qu'on comprenne un peu ce sur quoi vous travaillez. Mmh. Est-ce que c'est en gros qu'il y a une distinction valide entre celui qui prend des substances et qui, de ce fait, devient responsable, ou de savoir s'il était malade avant de prendre... J'ai pas très bien suivi dans la... Comment dire ? J'ai compris l'objectif, mais j'ai pas compris les moyens.
Bon. Il y a, dans cette équation bien difficile, qui, là encore, ne peut pas supporter d'approximation... Vous avez vu que l'époque n'est pas à la nuance.
C'est affreux.
L'époque n'est pas à la nuance, c'est à la caricature, au manichéisme permanent. Qu'est-ce qu'il faut regarder, là ? D'abord, il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. On ne peut pas juger les fous dans notre pays. Ce serait une régression insupportable. On jugeait les fous et les animaux au Moyen-Âge. Bien. Deuxièmement, est-ce que l'on peut condamner un homme qui n'aurait pas l'intention de commettre un crime ? Non. Troisièmement, est-ce que l'on peut envisager un traitement différent entre celui qui est un malade psychiatrique et celui qui atteint la folie et l'abolition du discernement parce qu'il a consommé des stupéfiants. Voilà ce qui est en jeu. Et moi, je ne veux pas me précipiter. Je veux être ferme, mais je veux être nuancé. J'ai commencé la consultation large. C'est ce que j'ai fait également quand on a évoqué la question des agressions sexuelles faites aux mineurs. Donc, j'ai reçu les représentants des religions, j'ai reçu des magistrats, j'ai reçu des psychiatres, je recevrai prochainement des avocats. Et de tout cela, je me nourris de tout cela, nous allons faire un travail qui sera clair, net,
précis. Mais vous ne répondez pas à Nathalie, monsieur le ministre.
J'ai pas fini mon travail.
Quand elle vous parle de ce rapport parlementaire qui conclut qu'il n'y a pas de nécessité à changer la loi en matière d'irresponsabilité pénale, c'est un rapport pour rien.
C'est ce que dit ce rapport parlementaire qui est intervenu avant l'arrêt de la Cour de cassation. Et puis, j'ai lu, évidemment, ce qu'a dit le procureur général près la Cour de cassation, cette difficulté qu'il y a. Il dit, et la Cour de cassation le redit d'ailleurs, le juge ne peut pas distinguer là où la loi ne le fait pas.
Effectivement, donc, la loi doit distinguer.
Voilà une piste que je vous livre, mais mon travail n'est pas terminé. Et puis nous avons aussi l'avis de l'avocate générale qui s'est exprimé devant la Cour de cassation, qui est un avis extrêmement circonstancié, un travail très intéressant. Et moi, je veux me nourrir de tout cela.
Ça veut dire que s'il y avait votre loi, Kobili Traoré aurait été jugé ?
Non, on peut pas. D'abord.
Je vais pas faire de l'histoire.
Non, mais d'abord, la question est intéressante parce que est-ce qu'il y aura vraiment un texte ? Est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment un vide juridique ?
Il y aura un texte. Mm-hmm. J'y travaille. Je vous ai dit quelle était ma méthodologie. Je vous ai dit de quoi j'allais me nourrir. Mais si j'ai répondu ?
Non. Aurait-il été jugé ?
Est-ce qu'en gros, la notion de vide juridique dont vous avez parlé est une notion qui un vide qui va être comblé et qui fait que si on revenait en arrière avec le futur texte de loi, il aurait été jugé et non pas déclaré responsable.
Mais d'abord, on va le dire. Et moi, écoutez bien, je ne veux pas rajouter de l'huile sur les feux. Des gens sont dans le chagrin, ils l'ont exprimé, parfois dans l'incompréhension. Je veux pas m'amuser à ça. Cette décision, elle est aujourd'hui définitive. Il faut en prendre acte. Mmh. Mais pour l'avenir. Et au regard de cela, parce que au fond, qu'est-ce qui fait évoluer le droit ? C'est aussi la société et ses attentes. Bien, pas dans n'importe quelles conditions, parce que sinon, c'est du populisme de mauvaise facture.
Oui, parce que j'allais vous parler du besoin de vengeance, d'expression de plus en plus libre et fréquente de personnes qui réclament toujours plus de sévérité. C'est dans ce sens-là et depuis des décennies que cette lame de fond avance, Éric Dupond-Moretti.
Mais vous savez ce qu'est la justice en réalité ? C'est une confiscation du droit à la vengeance par l'État. Et donc ça ne peut s'inscrire que dans la règle de droit. Ce qui ne veut pas dire laxisme, ce qui ne veut pas dire angélisme, ce qui ne veut pas dire, comme dit Madame Le Pen, Taubira en pire. Quand j'ai reçu Madame Taubira à la chancellerie, je l'ai appelée Madame Dupond-Moretti en mieux. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est le droit, c'est ce qui nous distingue de la barbarie. On ne peut pas faire l'économie de cela. Et il faut de la nuance. Mais vous savez, les Français, moi, je pense que ils regardent les choses et ils savent au fond que quand vous arrivez deux heures après des faits atroces de terrorisme, que vous vous servez d'un cercueil comme d'un marchepied. Moi, je vous le dis, mesdames, messieurs...
Vous visez qui quand vous dites
Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ça me dégoûte. Moi, je suis incapable de faire ça. C'est d'un cynisme. Voilà ce que l'on offre. Et moi, vous savez qu'elle ne veut pas débattre avec moi. Vous savez, elle l'a dit partout.
Elle veut débattre avec Jean-Paul Garraud. Vous débattiez avec Jean-Paul Garraud. Excusez-moi, vous mettez dans le même sac Marine Le Pen et les Républicains. Éric Ciotti, vous considérez que le fameux cercueil comme marchepied, c'est toute la droite confondue. Vous faites une distinction.
Pardonnez-moi, madame, mais je trouve qu'on ne peut pas être cynique dans ces circonstances. Vous voyez ? À bon entendeur, salut. On ne peut pas être cynique. Ça n'est pas possible.
Éric Ciotti ?
Ça n'est pas possible. Je pense que je suis très clair. Je ne connais pas précisément ses propos et c'est la raison pour laquelle je ne réponds pas à votre question. Je ne connais pas exactement les propos qu'il a prononcés. Sinon, sans embâche, je vous répondrai si ses propos étaient des propos cyniques. Oui, je pense que c'est le même cynisme. Et s'il ne l'était pas, je vous dirais non, je pense que ça n'est pas à mettre sur le même plan.
Alors justement, une question peut-être plus claire, puisqu'en politique, certains de vos adversaires et de vos opposants à droite et à l'extrême droite trouvent que vous n'allez pas assez loin. On a entendu la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, déclarer qu'il y avait un lien entre terrorisme et immigration. C'était dimanche dernier, c'est une question qui revient régulièrement dans le débat public. Qu'est-ce que ça vous inspire et que répondre ? Comment voir clair dans cette relation entre l'un et l'autre ?
Les 30 derniers attentats qui ont été commis, deux tiers de Français en sont les auteurs. Deux tiers. De la même façon qu'à une époque, on faisait un lien entre l'immigration et le chômage, vous vous souvenez de ça ? Aujourd'hui, certains croient devoir faire un lien entre l'immigration et le terrorisme. Ce qui fait le lit du terrorisme, c'est pas l'immigration, c'est l'islamisme radical. Les choses sont singulièrement différentes. Et nous y travaillons. Je veux dire que moi, dans la loi... pour lutter contre les séparatismes, j'y ai eu ma part active. La haine en ligne, par exemple, avec la possibilité d'attraire devant la juridiction correctionnelle tout de suite les haineux en ligne qui nourrissent le terrorisme. On l'a vu dans le dossier Paty. Mais également ceux qui menacent tous les agents publics pour obtenir des choses qui ne seraient pas conformes aux valeurs de la République. Et puis, Jean-Michel Blanquer a fait son travail sur l'école. Gérald Darmanin a fait son travail également sur les cultes. Tout ça, voyez-vous, ça n'est pas un fatalisme. Mais en réalité, vous vous rendez compte que certains opposants, finalement, gagnent des points dans l'électorat, dans les sondages en tous les cas, parce que moi, je distingue les sondages du vote. Oui. Chaque fois que le malheur arrive, ils se nourrissent du malheur. Voilà ce que je pense. Et voilà ce que je suis obligé de dire. Vous voyez, le dernier attentat de Rambouillet, pardonnez-moi, On ne peut pas identifier ce terroriste. Il ne l'est pas. Il va se radicaliser au tout dernier moment. On apprend d'ailleurs que c'est non seulement un islamiste radical de la dernière heure, mais également un type particulièrement pervers, puisqu'il va consulter des sites pédopornographiques. Voilà. Et on n'a pas la possibilité d'eux. Enfin, moi, ce que je veux vous dire, écoutez, pour être raisonnable, pour ne pas être manichéen, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais qu'il n'y a pas non plus de fatalité et qu'on y travaille au quotidien. Il y a ceux qui blablatent, il y a ceux qui commentent, il y a ceux qui critiquent. C'est facile la critique, 30 secondes sur un plateau télé. Mais moi, je peux vous dire dans le détail ce que nous avons fait. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Quartier d'évaluation de la radicalisation, prise en charge des radicalisés, renseignement pénitentiaire. Nous avons augmenté le nombre de surveillants pénitentiaires affectés au renseignement de façon considérable. Nous avons augmenté le nombre de magistrats. Il y a 10 000 policiers de plus. Mais bon Dieu, est-ce que ça, c'est inutile de le rappeler ? Ou est-ce qu'on se contente du buzz ?
Non, non, c'est utile et il faudra en évaluer les résultats et l'efficacité.
C'est pas les réseaux sociaux.
Alors, Nathalie Saint-Cricq, Françoise Fraisseau, rapidement, avant votre portrait, Éric
Dupond-Moretti. Est-ce que vous considérez, à propos de buzz, qu'on en fait trop sur la laïcité ou les débats sur l'islamo-gauchisme ? Ou est-ce qu'il y a un véritable problème ou un sujet en France ?
Je pense qu'il y a un sujet, mais moi, vous voyez ce que j'ai découvert en étant ministre ? C'est à quel point, parfois, on s'arrêtait des semaines sur des mots, sur des divergence sémantique.
Comment sauvagement ?
Par exemple, écoutez, on a fait des semaines d'histoire avec ce machin-là.
Enfin, c'est quand même intéressant de voir que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reprend exactement l'expression qui a été prise par Marine Le Pen. Parce que du coup, voilà. Ça la valide quand même, cette expression-là.
Marine Le Pen, elle n'a pas confisqué le dictionnaire, vous me pardonnerez, il y a des mots qu'elle utilise. Quand elle dit bonjour, Marine Le Pen, moi aussi je vous ai dit bonjour.
Donc vous la contestez beaucoup, mais donc elle fait des diagnostics qui sont bons.
Non mais madame, ce n'est pas ce que je dis du tout. Là, vous êtes dans ce que je dénonce, c'est une espèce de caricature. Voilà qu'elle aurait dit en sauvagement. Moi, qu'est-ce que j'avais dit sur cette histoire ? Je veux pas revenir là-dessus. Mais enfin, non. Tout de même.
Oui, le débat a eu lieu, il a été fait, refait.
Et il y a un sentiment de. Mais oui, mais ça a duré des plombes. Bon, moi, ce sur quoi je me concentre, c'est sur mon action. Vous voyez, par exemple, madame, le ministre des détenus. Le ministre des détenus, il a construit des prisons. On en a sorti 7 000 et on en sortira 8 000. Et le ministre des détenus, il veut redonner un sens à la peine. Oui, il faut punir. Je le dis sans trembler. Oui, il faut mettre de côté ceux qui constituent un danger pour l'ensemble de la société. Mais oui, il faut aussi envisager la réinsertion.
La sortie de la prison et donc la réinsertion.
Pourquoi ? Mais je le dis à ceux qui nous écoutent parce que entre une sortie qu'on appelle sèche, c'est-à-dire on ouvre la porte, le type sort, et une sortie accompagnée, le taux de récidive, c'est du simple au double. C'est-à-dire que celui qui est accompagné va récidiver statistiquement 2 fois moins que celui qui ne l'est pas.
Françoise Fressoz.
Vous disiez tout à l'heure, le sujet, c'est pas l'immigration, c'est la lutte contre l'islamisme radical. Et là encore, Marine Le Pen dit, mais pourquoi vous faites pas une législation d'exception contre l'islamisme radical, ce qui permettrait de moins toucher aux libertés publiques des autres ? Pourquoi est-ce que c'est une solution inenvisageable ?
Mais est-ce que vous voudriez d'abord m'expliquer, si vous le voulez bien, que je comprenne la dialectique de Madame Le Pen, en quoi nous touchons à la liberté des autres ? Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure sur les algorithmes. Est-ce que vous vous sentez menacé ?
C'est l'idée qu'au fond, il y a une surveillance de plus en plus forte qui s'exerce sur tout un chacun.
Mais madame, pardonnez-moi, sur les algorithmes, vous vous sentez menacé ? Alors que c'est dans le cadre de la loi que les choses sont clairement posées ?
Non, moi je ne me sens pas menacé, mais je me dis, au fond, avec une législation qui, chaque année, se renforce, à un moment arrive un régime autoritaire, et oui, je me sentirais menacé.
Madame, on a le chic pour ces débats dans notre pays. Moi, dans mon expérience d'avocat, je suis allé plaider dans des pays qui n'étaient pas démocratiques. Mmh. Oui. Et je peux vous dire que ça ressemble pas du tout à ce que nous vivons au quotidien. La France est un grand pays de liberté. Mais en même temps, on est en guerre contre les islamistes radicaux. Il faut prendre un certain nombre de mesures. Et si nous ne le faisions pas, vous seriez les premiers à dire « vous ne faites rien ». Donc il faut que l'on avance. Il faut qu'on avance en écoutant, par exemple, ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Ben oui, c'est bien le moins, on est dans un état de droit. Moi, je veux, je le redis, combattre les islamistes, mais je ne veux pas leur ressembler. Et la règle de droit, elle s'impose à nous. Alors moi, je veux bien qu'on dise que dans ce pays, on a perdu le sens de la liberté. Je veux bien que Madame Le Pen soit celle qui, d'ailleurs, se fasse le chantre de la liberté dans notre pays. Enfin, quand même, il y a des limites à pas franchir. Je suis désolé. Moi, ma liberté, je la sens pas menacée. Très franchement, madame. Et je ne sais pas qui de raisonnable peut sentir que sa liberté est aujourd'hui menacée dans notre pays.
Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Votre portrait, monsieur le ministre, il est signé Karine Bécard.
Vous avez donc accepté de devenir ministre et du même coup d'entrer dans l'arène politique. En réalité, des avocats comme vous, nommés ministres de la Justice, il y en a eu beaucoup, comme Aristide Briand par exemple, Edgar Faure ou encore François Mitterrand. Mais le dernier à avoir vraiment imprimé pour ses réformes et par sa personnalité, c'est Robert Badinter. Et Robert Badinter, c'était il y a déjà précisément 40 ans. Alors que ferez-vous, vous, Éric Dupond-Moretti, pour l'instant? C'est l'avocat, bien sûr, qui a incontestablement marqué les esprits. Vous prêtez serment à l'âge de 23 ans. À l'origine, c'est l'exécution de Christian Ranucci, l'un des derniers condamnés à mort en France, et possiblement une injustice qui vous ébranle et qui suscite votre vocation avec un style minimaliste au début dans l'affaire Hendrick.
Puisque nous n'avions plus que la copie de ce dossier, Et j'ai donc pensé que la copie du dossier n'était pas suffisante pour que l'on ait la certitude de la légalité des pièces permettant l'incarcération de mon client Francis Hendrick.
Alors vous allez changer. D'abord, vous enlèverez la cravate pour mettre une pochette à la place. Et puis plus sérieusement, votre aisance, Éric Dupond-Moretti, et votre éloquence apparaîtront progressivement de plus en plus brutales, voire féroces. Procès d'Outreau, en 2000, à 39 ans, c'est lui qui vous révèle au public. Procès Colonne, hein, vous y participerez aussi. Affaire Kerviel, affaire Cahuzac, affaire Balkany. Et c'est vous encore qui avez accepté, personne n'a oublié, de défendre le frère du terroriste Mera. Au total, 145 acquittements, c'est du jamais vu. Vous bousculez, vous théâtralisez, vous tétanisez certains juges qui se sont donc évidemment sentis agacés quand le président Emmanuel Macron a décidé de vous nommer. Mais dès votre passation de pouvoir, Éric Dupond-Moretti, la bête noire des prétoires s'est tout de suite arrondie comme si la politique vous avait instantanément poli.
Pendant près de 36 ans, j'ai sillonné la France dont je connais tous les tribunaux. Ah, je le confesse, je n'ai pas de la justice une connaissance technocratique. Je la connais humainement. Je la connais intimement. Je la connais, Nicole, charnellement.
Ministre, vous ne le souhaitiez pas, Éric Dupond-Moretti, c'est ce que vous aviez dit, mais vous l'êtes aujourd'hui depuis déjà 10 mois. Vous apprenez les codes, vous apprivoisez les méthodes, et c'est vous, désormais, qui vous faites tancer. Retour sur cette première séance de questions d'actualité à l'Assemblée, c'est l'arroseur arrosé.
Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions?
Non, on ne décompte pas.
Ah ben voilà.
On souffre en silence.
Voilà, pas facile. Sacrée revanche, en tout cas socialement parlant, mais politiquement, Éric Dupond-Moretti, pourquoi l'avocat libre que vous avez toujours été a décidé à 60 ans d'être un ministre attaché à un gouvernement? Manifestement, c'est un choix assumé. Peut-être espérez-vous y incarner secrètement l'aile gauche, sauf qu'en 4 ans, sur ce front-là, jamais personne n'a réussi à percer.
Commentaire, Éric Dupond-Moretti.
Je ne sais pas si je veux incarner l'aile gauche. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens, ces histoires de gauche et de droite. Et c'est fou comme on a du mal à se le mettre en tête. Et en particulier, d'ailleurs, ce qu'on appelle les journalistes pôles, journalistes politiques. Ils n'ont pas compris encore que ça n'avait plus trop de sens. Alors évidemment, c'est désarçonnant.
Ça n'a pas l'air d'être un compliment dans votre bouche.
Non, c'est un constat. Non, c'est un constat. Moi, j'aime le président de la République parce que justement, il a bousculé ses règles et ses codes. Et madame, je trouve qu'une bonne idée de droite, c'est meilleur qu'une mauvaise idée de gauche. Et réciproquement, et inversement. Voilà, c'est très clair.
Mais Robert Badinter est de gauche.
Robert Badinter est de gauche.
Et donc il y a aussi une politique pénale, une vision de la justice qui peut différer selon son appartenance politique.
Oui, mais
c'était
une époque où les clivages étaient beaucoup plus clairs qu'ils le sont devenus aujourd'hui. Moi, je veux travailler avec tous ceux qui, à compter du moment où ils sont démocrates et républicains, me proposent des choses qui me paraissent des choses intéressantes.
Françoise. Hein ?
Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'est-ce qui pousse un avocat pénaliste renommé comme vous, de tout d'un coup passer de l'autre côté pour exercer un mandat où vous êtes quand même bridé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à décider. On a évoqué l'indépendance du parquet, vous le portiez, vous n'avez pas pu le faire parce que le Sénat ne voulait pas de la réforme. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça dans le moment présent ?
Mais madame, d'abord je suis arrivé avec 36 ans d'expérience professionnelle d'avocat. Donc une vision de la justice qui est ma légitimité. Ce que j'ai dit que je ferais là, vous avez retrouvé les images, on ne va pas tout repasser.
Au cours de ce seul moment dans votre vie où vous avez été obligé de...
Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. J'ai porté cela. Et non seulement je l'ai fait, j'ai eu des assurances du président de la République que l'on me donnerait les moyens de le faire. Et effectivement, on m'a donné les moyens de le faire, notamment par un budget qui est un budget exceptionnel.
Enfin, la France reste quand même le pays démocratique avec la justice la plus pauvre de l'OCDE, et ça reste malgré tout le cas.
Oui, c'est vrai, mais il faut souligner que depuis 25 ans, on n'a pas vu un tel budget, et je vais vous dire autre chose, il y a bien des pays que vous semblez envier où la justice est payante, ce qui n'est pas le cas de la nôtre. Il faut quand même redire les choses.
Juste une question de journaliste politique demeuré. La France a choisi d'extrader sept personnes, anciens brigadistes, responsables de crimes de sang, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de différence avec la jurisprudence 10 de François Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'est dit affligé par cette politique des coups de menton. Est-ce que c'était bien utile d'aller chercher des grands-parents, voire des arrière-grands-parents au soir, pour les envoyer en Italie et qu'ils purgent leur peine si longtemps après? Je rappelle que c'était dans les années 70.
Ah oui, et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que nous aurions accepté qu'un des auteurs du Bataclan, par exemple, parte vivre 40 ans tranquillement en Italie? Oui, non? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Mélenchon? Ça, c'est le vieux gauchisme avec une moralité parfois
curieuse. Il dit que c'est de
curieuse.
La vengeance.
Non, curieuse, mais pas du tout. D'abord, la doctrine Mitterrand, on va rappeler ce que c'est, très rapidement. C'est la résidence possible pour les ex-brigadistes, résidence, pas le statut de réfugié, hein, sauf pour ceux qui ont du sang sur les mains.
Oui, cela,
pardonnez-moi, si l'on regarde les décisions de condamnation qui ont été prononcées en Italie, ont du sang sur les mains. Je vais vous donner une toute petite chose, là, petite anecdote, enfin pardon, et ça n'est pas une anecdote bien sûr. Un commissaire de police a été tué dans le cabinet d'un médecin, 5 balles dans le corps, devant son petit garçon de 5 ans. Puis ce petit garçon est devenu un homme. Un jour, il est venu à Paris voir un match. C'est la ministre italienne de la Justice qui me l'a raconté. Et vous savez qu'il y avait au match, à quelques mètres de lui, l'assassin de son père. L'Italie a le droit aussi de tourner la page. Et je le redis, si nous avions les terroristes qui nous ont fait tant de mal, qui étaient partis se réfugier en Italie 40 ans tranquillement, et une dernière chose, tous ceux qui ont soutenu M. Battisti, M. Mélenchon peut-être. Mmh. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Battisti? Dès qu'il arrive en Italie, il dit d'abord, des 4 meurtres, j'en suis le coupable. Alors qu'il était ici un innocent aux mains pleines, que tout le monde était en admiration devant M. Battisti. Il dit autre chose d'ailleurs, M. Battisti. Il dit, le procès italien était un procès équitable. Et enfin, il dit qu'il s'est bien foutu de tous ceux qui l'ont soutenu, et notamment des intellectuels français de gauche. Quelques grands journaux aussi, d'ailleurs, qui se souviendront de cela.
Bon.
Voilà. Donc, moi, je l'ai dit, je n'ai aucun état d'âme. Et puis, le combat contre le terrorisme, c'est un combat européen.
Malgré tout, il y a un deal entre la France et l'Italie. La France.
Le président de la République, il y a longtemps qu'il discute avec son homologue italien. C'est un des premiers dossiers dont il m'a parlé. J'ai dit que j'étais fier d'avoir transmis au parquet général de Paris les éléments qui permettaient d'initier les poursuites et les arrestations. C'est maintenant entre les mains de la justice. Et moi, je pense que, je le redis, pardon, les Italiens attendaient cette décision. Ils attendaient cette décision depuis 40 ans. Et il suffit de voir ce que la presse, toute sensibilité confondue, et ce que les gens on dit lorsqu'ils ont su que ces assassins étaient arrêtés pour savoir que nous sommes dans le vrai.
Justement, parce que c'est compliqué de comprendre parfois la justice, le sens de la peine, et c'est important de rappeler les principes de l'état de droit. Est-ce que Ivan Colonna, par exemple, a vocation un jour à sortir de prison?
Je peux pas répondre à cette question.
Non.
D'abord, mais non. Et à deux titres, pardon. D'abord, j'ai été son avocat.
Justement.
Bien sûr.
Une fois qu'il aura purgé sa peine.
Attendez, et je suis aussi, ça a été rappelé il y a quelques secondes, devenu ministre de la Justice. Donc le ministre de la Justice ne peut pas, sur une situation individuelle, s'exprimer. Voilà.
C'est très clair.
Ça n'est pas un échappatoire, ce sont des règles que je me suis imposées, et j'entends bien sûr les respecter. D'ailleurs, quand je dis que je me les suis imposées, ce sont des règles qui sont aussi imposés.
Oui, qui s'imposent à vous.
Oui, l'indépendance de la justice fait que le garde des Sceaux ne peut pas intervenir pour s'exprimer à l'emporte-pièce sur ces questions. Et doublement lorsqu'il a été l'avocat d'un des protagonistes.
Françoise Fressoz, il reste 5 minutes et
on
encore
va faire
questions
un peu de popole, un peu de politique.
Allez, un peu de popole.
Est-ce que vous souhaitez que... souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron se représente?
À votre avis? Bah oui, bien sûr.
Est-ce que vous allez l'aider et comment?
Je vais l'aider toutes mes forces. Comment, je ne sais pas encore.
À un an de la présidentielle, est-ce qu'Emmanuel Macron a pris un risque démesuré avec les mesures qu'il a décidées dans le cadre de la crise sanitaire, le Covid?
Je ne crois pas, madame. Moi, ça n'est pas mon périmètre, mais vous savez que je suis ça de près, comme vous, comme tous les Français, bien sûr. Il y a évidemment la consultation permanente des milieux scientifiques. Je ne parle pas de ceux qui vont papoter. Je parle de ceux qui... Ouais, parce qu'il y a plus de médecins à la télé parfois qu'ailleurs, mais c'est toujours un peu choquant. Non, mais c'est vrai, on s'invente des experts, 15 experts à la douzaine, sur tous les sujets d'ailleurs. Ça commente, ça blablate, voilà, moi ça me chagrine un peu. Ça, c'est une vraie découverte. Pour moi, je ferme cette parenthèse déjà beaucoup trop longue.
Non, mais elle est intéressante, c'est aussi le cas de nombreux avocats.
Je pense vraiment que nous allons sortir de cela, et je pense que le président de la République n'a pas pris de risques inconsidérés.
Les choix du président ne font pas peser sur la situation hospitalière une pression trop forte.
Madame, je ne le crois pas. Ces décisions n'ont pas été prises au doigt mouillé. Je pense qu'il y a un certain nombre de consultations, de concertations qui permettent au président de la République d'envisager les mesures qu'il a prises.
Nathalie Saint-Cricq, puis François Fressoza.
Ça va être encore la quintessence de la politique, oui. Politicienne. Il y a eu un accord entre Renaud Muselier et Sophie Cluzel, ouais. À savoir entre les Républicains et la République En Marche pour les régionales. Est-ce que vous trouvez que justement c'est une bonne configuration avec tout ce qu'on prend en termes de Front Républicain, notamment contre le Rassemblement National, ou alors ça risque de faire une espèce de confusion où finalement il y a vous et le Front National, et le Rassemblement National, pardon, et rien d'autre. Est-ce que cette façon d'absorber la droite, la gauche, ne fait
Éric
pas...
Éric Dupond-Moretti, il nous reste vraiment très
peu. Non, mais moi, je me félicite de cet accord. Enfin, c'est l'accord de républicains, démocrates, qui font front commun contre le Front National. Et je veux vous rappeler, d'ailleurs, alors, j'ai vu que certains, à droite, n'étaient pas tellement contents de cela, mais moi, je veux rappeler deux choses, puisqu'on fait de la pole...
Fini après. Hein.
D'abord que le président de la République, Jacques Chirac, avait, quand il était au pouvoir, très nettement distingué entre le Front National, à l'époque il s'appelait le Front National, non dédiabolisé, et puis le reste des partis démocrates et républicains. Mmh. Nicolas Sarkozy également, le président Sarkozy, quand il était au pouvoir, a fait très nettement la césure entre les républicains et le Front National. Et voilà que la droite, qui ne s'y retrouve plus, tente désespérément de se positionner. Combattre Marine Le Pen, ça n'est pas limité. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'imitent en sont pour leurs frais. Et je veux encore vous dire, puisque j'ai appris qu'on avait décidé de l'exclusion de M. Muselier, je pense qu'on ne gagne pas un combat électoral en excluant.
Françoise Fressoza.
Le danger 2022, c'est Marine Le Pen.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Elle peut gagner, vous pensez ?
Mais non, pas du tout.
Mais non, pas du tout.
Attendez,
les jeux ne sont pas encore faits.
Non, pas du tout, parce que quand vous regardez ce que fait Madame Le Pen, elle parle et elle ne propose rien. Et si l'on avait véritablement une analyse précise de ce qu'elle propose, notamment dans le périmètre qui est le mien, vous verriez qu'elle ne fait pas une seule. Pas une seule proposition.
Le temps viendra, celui de la comparaison entre les programmes. Est-ce que vous participerez aux commémorations ?
On ne peut pas débattre, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Est-ce que vous participerez aux commémorations de Napoléon, du bicentenaire de sa mort ? Est-ce qu'il fait partie de votre panthéon ?
Je pense qu'on ne peut pas juger l'histoire de France en la découpant. L'analyse de l'histoire appartient aux historiens. Et on ne peut pas s'amuser comme ça. L'histoire de France est un tout.
Elle appartient aux Français.
Et c'est... Ah oui, je pense à l'analyse, bien sûr, qui en est faite. Et alors, on ne peut pas, au gré de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, avec des siècles de retard, moi, je ne crois pas à tout cela. Vous voyez, je vais vous rappeler des choses toutes bêtes, toutes simples. L'adultère de la femme est un délit jusqu'en 1975. L'homosexualité est une infraction jusqu'en 1982. Donc, vous savez, regarder l'histoire, la juger, ça n'a pas de sens. On peut effectivement avoir un esprit critique sur ce qui a été fait, mais qu'on le veuille ou non, Napoléon appartient à notre histoire. Voilà, comme tant d'autres.
Ce sera le mot de la fin, justement. L'émission se termine. Merci Éric Dupond-Moretti d'avoir été l'invité de Questions Politiques. Bon dimanche. Merci à toutes les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Alexandre Gilardi et à toutes les équipes techniques de l'émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.